Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 5 mars 2021. Abdourahmane Diallo, la présentation, voici les titres. Au Sénégal, troisième journée de violentes manifestations suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko qui a été maintenu en garde à vue. L'Union africaine se dit consternée après les morts survenues pendant la tentative d'arrestation d'un opposant au Tchad. L'ONU demande la fin de ce qu'elle appelle des arrestations arbitraires en Algérie. Et puis le pape François est arrivé en Irak pour une visite historique de 3 jours. Il a dénoncé les violences djihadistes contre les yazidis. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, maintenu en garde à vue après son face-à-face avec le doyen des juges, le pays vit sa troisième journée de manifestations et de violences depuis son arrestation. Depuis mercredi, il y a eu 2 morts. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Ce matin, vers 4h, Ousmane Sonko a été conduit au palais de justice de Dakar pour répondre aux doyens des juges sur les accusations pour lesquelles il est poursuivi. Sans ses avocats, il faut cependant le préciser, parce que ces derniers ont été interdits d'accès par les membres du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, l'unité d'élite de cette gendarmerie-là, qui a conduit Ousmane Sonko au palais de justice. À la fin de son audition par le doyen des juges, Ousmane Sonko a été inculpé en plus des faits de viol et menaces de mort pour appel à l'insurrection et trouble à l'ordre public. Une deuxième demande de levée de l'immunité parlementaire du député a également été prononcée, parce que la première levée de l'immunité parlementaire concernait uniquement les faits de viol et menaces de mort pour lesquels il est poursuivi. Au-delà de Ousmane Sonko, il y a beaucoup de manifestations dans la capitale sénégalaise, notamment en banlieue, où certaines banques ont subi la furie des manifestants. Du côté de la commune de Mbao, une banque a d'ailleurs été défoncée et plusieurs dizaines de millions ont été emportés. Dans la ville de Tiaouane, qui est une cité religieuse également, il y a eu de fortes manifestations, tout comme à Mbaké, où une antenne régionale de la radio Futur Média, la radio de Youssou Dour, le célèbre chanteur, a été attaquée. Actuellement, l'armée a été déployée devant la télévision nationale pour empêcher les manifestants d'y accéder. Ces manifestants sont également partis à la charge des grandes surfaces. Il faut également signaler que dans ces attaques contre les grandes surfaces, il y a eu un mort supplémentaire qui est venu s'ajouter aux 2 décès d'hier, puisque le préfet du département de Pékin a annoncé ce matin dans un communiqué qu'un corps a été retrouvé dans le magasin Auchan de Kermassar. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Toujours concernant le Sénégal, le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest a lancé ce vendredi un appel au calme et à la retenue. Mohamed Ibn Chambaz déplore les actes de violence qui ont eu lieu au cours des 2 derniers jours dans plusieurs localités du Sénégal, ont indiqué ses services dans un communiqué. Il exhorte également les autorités sénégalaises à prendre les mesures nécessaires pour apaiser la situation et assurer le droit constitutionnel de manifester pacifiquement. L'Union africaine exprime sa consternation après la perte de vies humaines civiles et parmi les forces de l'ordre au Tchad lors d'une tentative d'arrestation d'un opposant. C'est le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, lui-même tchadien, qui a fait cette déclaration aujourd'hui. Le point avec Jacques Aristide.
L'incident a eu lieu dimanche dernier. La police, épaulée par des militaires lourdement armés et des blindés, a tenté d'arrêter l'opposant Yaya Diallo à son domicile de N'Djamena. Sa candidature à la présidentielle du 11 avril prochain a été invalidée par la Cour suprême. Il était visé par 2 mandats d'amener pour diffamation et injure à l'égard de l'épouse du président Idriss Déby Itno. D'après le parti de Diallo, 5 membres de la famille de l'opposant, dont sa mère, ont été tués par un corps d'élite de l'armée. Une version contredite par le ministre des Affaires étrangères, Amin Abba Sidik, devant le corps diplomatique. Un tir de l'intérieur visant les forces de l'ordre a atteint mortellement la mère de Yaya Diallo, a-t-il affirmé, ajoutant que 2 militaires ont été tués dans un blindé dans la cour de l'opposant. Dans un communiqué, le chef de la commission de l'UA note que cet événement douloureux s'est déroulé à 1 mois de la présidentielle. Moussa Faki Mahamat appelle le gouvernement et l'ensemble des acteurs politiques tchadiens à œuvrer résolument pour créer les conditions idoines pour la paix afin d'assurer la tenue du scrutin dans un climat apaisé, dans le strict respect de la loi, de l'ordre et de la stabilité du pays.
Le Congo-Brazzaville a lancé ce vendredi la campagne pour l'élection présidentielle du 21 mars, au cours de laquelle le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui a totalisé 36 ans au pouvoir, brigue un quatrième mandat. Il a lancé sa campagne dans la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire. Au total, un peu plus de 2,5 millions d'électeurs doivent départager 7 candidats, dont le président sortant et son principal rival, Guy Parfait-Kolela. Le Mali a reçu ce vendredi son premier lot de vaccins contre le coronavirus grâce au dispositif COVAX. Ce premier lot de 396 000 doses du vaccin AstraZeneca a été réceptionné à l'aéroport de Bamako par le président de la transition, Ban Daou, en présence notamment de représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Fin janvier, le gouvernement avait indiqué vouloir acquérir 8 400 000 doses dans le cadre de l'initiative COVAX. Le Mali a officiellement recensé 8 470 cas de coronavirus, dont 357 décès. La Guinée a également reçu 200 000 doses supplémentaires de vaccins anti-Covid en don de la firme chinoise Sinopharm, arrivée mercredi à Conakry suite à une demande du président Alpha Condé le 12 février dernier. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, a lancé aujourd'hui sa campagne de vaccination et nous y reviendrons dans la partie magazine. Par ailleurs, le Kenya aussi a lancé sa campagne de vaccination avec une première phase ciblant le personnel médical. Le directeur général du ministère de la Santé, Patrick Amoth, a été le premier à recevoir le vaccin à l'hôpital national Kenyatta à Nairobi. Le Rwanda a également lancé sa campagne de vaccination après le déploiement d'un premier millier de doses du vaccin Moderna en février à destination des agents de santé. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a réclamé ce vendredi aux autorités algériennes de mettre immédiatement fin aux violences contre des manifestants pacifiques et d'arrêter les détentions arbitraires. Le point avec Claire Morin-Jubourg.
Rupert Colville, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU à Genève, fait état de rapports crédibles selon lesquels près d'un millier de personnes ont été poursuivies pour avoir participé au mouvement du Kirak ou pour avoir publié des messages critiques du gouvernement sur les réseaux sociaux. Selon lui, au moins 32 personnes sont détenues pour exercice légitime de leurs droits et certains sont passibles de longues peines de prison, tandis que d'autres sont toujours en détention provisoire. Les Nations Unies estiment que des centaines d'individus ont été arrêtés depuis la reprise des manifestations le 13 février 2021 et appellent à la libération immédiate et sans condition de toute personne arrêtée ou détenue arbitrairement pour leur soutien présumé au Irak. L'agence onusienne demande des enquêtes rapides, impartiales et rigoureuses sur les allégations de torture et de mauvais traitements en détention, y compris de violences sexuelles.
Toujours concernant l'Algérie, des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays, enracinant la mobilisation du mouvement pro-démocratie du Hirak qui a repris ses marches fin février. Depuis le deuxième anniversaire du soulèvement populaire, le 22 février, les manifestants du Hirak sont redescendus dans la rue le vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement avant sa suspension il y a un an en raison de la pandémie de coronavirus. Les marches du Hirak vont continuer jusqu'à ce que le régime qui ne veut pas entendre notre voix cesse d'exister, a déclaré un fonctionnaire de 37 ans participant au défilé à Alger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François est arrivé ce vendredi en Irak pour un voyage historique sous haute protection et malgré la pandémie sur une terre martyre depuis des années où il entend reconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes et musulmanes du monde, les précisions de John Lindon.
Arrivé en pèlerin de la paix pour une visite de 3 jours, le chef de l'église catholique s'est dit heureux de reprendre les voyages après 15 mois enfermés au Vatican. Le pape aura une rencontre historique demain samedi à Najaf avec le grand Ayatollah Ali Sistani, la plus haute autorité religieuse chiite d'Irak. Cet homme frêle de 90 ans n'apparaît jamais en public. Le souverain pontife va également participer à une prière à Our, dans le sud du pays. C'est une visite très symbolique sur la terre natale d'Abraham qui, selon le pape, réunit en une seule famille les musulmans, juifs et chrétiens. Là, il va prier avec des dignitaires sunnites, chiites, yassidis et sabéens. Au début des années 2000, l'Irak comptait 1,5 million de chrétiens, mais aujourd'hui, il serait seulement entre 300 et 400 000 à cause de la guerre, du terrorisme et de l'occupation d'une partie du pays par le groupe État islamique. La visite papale sera néanmoins virtuelle pour une grande partie des Irakiens, car l'Irak est placé depuis ce jeudi minuit en confinement total avec plus de 5 000 cas de Covid par jour.
L'émissaire de l'ONU pour la Birmanie, Christine Schaner-Burgener, a affirmé ce vendredi au Conseil de sécurité que la répression devait cesser sans toutefois aller jusqu'à demander des sanctions internationales contre la junte militaire comme évoqué mercredi. Votre unité est plus que jamais nécessaire sur la Birmanie, a-t-elle ajouté lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, selon son discours diffusé à des médias. L'émissaire a rappelé sa demande faite il y a une semaine à la communauté internationale de ne pas donner de légitimité ou de reconnaissance au régime militaire qui a procédé au coup d'État du 1er février. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lennon.
En République démocratique du Congo, la loi des finances pour l'exercice 2021 prévoit près de 24 millions de dollars pour la relance et l'industrialisation du secteur agricole dans les 26 provinces. Selon Financial Afrique, ce financement est destiné à l'acquisition des semences, des produits agroalimentaires et de divers équipements. Le Fonds monétaire international annonce l'achèvement de l'accord avec la Mauritanie sur la facilité élargie de crédit pour le décaissement d'environ 23,8 millions de dollars. L'accord a été approuvé en décembre 2017 avec un accès total d'environ 167 millions de dollars destinés à aider les autorités mauritaniennes à répondre aux besoins sociaux et d'infrastructures du pays. Toujours en Mauritanie, Aissata Lam a été porté à la tête de la toute nouvelle agence pour la promotion des investissements et devient la patronne de la jeune chambre de commerce à Nouakchott. Femme de réseau, membre du conseil consultatif pour l'égalité homme-femme en France en 2019, la promue est diplômée d'HEC à Montréal au Canada. L'économie américaine a créé 379 000 emplois en février. Le taux de chômage a légèrement baissé à 6,2% contre 6,3% en janvier. Les économistes avaient prédit qu'il resterait stable, mais conviennent que le taux officiel de chômage est sous-estimé en raison de la pandémie.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Tunisiens et Gambiens se retrouvent ce soir pour le match de classement de la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie, coup d'envoi 20h, temps universel. Demain, en finale, triple vainqueur de la compétition, le Ghana fera face à l'Ouganda qui est à sa première participation à une phase finale de cette catégorie de la CAN. En marge de cette finale, les différents candidats à la présidence de la CAF, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahia, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Sud-Africain Patrice Motsepe se rencontreront. Ils devront accepter définitivement ou rejeter la proposition de la FIFA de faire du Sud-Africain le président de la CAF en échange du poste du premier vice-président qui reviendra à Augustin Senghor et celui de deuxième vice-président à Ahmed Yahia. Jacques Anouma s'est vu proposer le poste de conseiller spécial du président de la CAF. L'élection aura lieu le 12 mars au Maroc. En Ligue des Champions, la troisième journée de la phase de groupe se poursuit, corrigée dimanche 5-1 par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Les Algériens du CR Belouizdad doivent se ressaisir ce soir face au Soudanais d'Al Hilal. À suivre ce samedi, le choc tout-puissant Mazembe Mamelodi Sundowns dans le groupe B. L'Espérance Tunis reçoit les Égyptiens du Zamalek, choc aussi entre les Marocains du Wydad et les Guinéens du Oruya AC, de même que la rencontre à la Ligue d'Égypte AS Vita Club de la République démocratique du Congo. Ligue des champions féminines 2021 cherche preneur. La CAF lance cette compétition cette année. Les associations nationales ont jusqu'au 31 mars pour soumettre à la Confédération africaine de football leur dossier de candidature présentant au moins deux stades et quatre sites d'entraînement. les plans d'hébergement pouvant accueillir les 8 équipes et la garantie officielle du gouvernement. Le tournoi final aura lieu pendant la période d'octobre, novembre ou décembre de chaque année. Pour cette toute première édition, 7 équipes se qualifieront pour le tournoi final à l'issue des éliminatoires organisées dans chaque union zonale, en plus du club champion du pays hôte qui est qualifié d'office. Ici, en NBA, les Los Angeles Clippers ont longtemps mené à Washington avant de manquer de gaz dans le Money Time et de finalement s'incliner 119-117. Les Nuggets n'ont pas peiné pour décrocher leur 4e victoire du rang en road trip à Indiana 113-103. San Antonio a été défait à Oklahoma City 107-102. Sans le Camerounais Pascal Siakam, les Toronto Raptors sont tombés face au Boston Celtics 132-125. Miami a battu la Nouvelle-Orléans 103-93. Les New York Knicks sont venus à bout de Détroit 114-104. Milwaukee a eu le dernier mot contre Memphis 112-111.
Merci à Kouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Un retour sur la situation de tension qui prévaut au Sénégal après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko alors qu'il se rendait à une convocation du juge ce vendredi. Après l'avoir entendu, les autorités judiciaires l'ont maintenu en garde à vue jusqu'à lundi. Les manifestations pour sa libération se poursuivent pour la 3e journée consécutive. Le point avec Seydina Abagay.
L'affaire Ousmane Sonko continue à soulever des vagues. Le député a fait face aux doyens des juges ce vendredi matin suite au mandat d'amener que ce dernier lui a décerné. Selon l'un de ses avocats, Maître Bamba Cissé, l'audition de Sonko a été reportée à lundi 11h. L'avocat n'a pas manqué de dénoncer des dysfonctionnements dans la procédure.
Il est irrespectueux qu'un magistrat ait convoqué un homme qui emprunte le chemin pour venir lui répondre et qu'un autre magistrat vienne dire qu'il fallait l'arrêter et l'amener pour votre cause. C'est un manque de respect du juge dans son moment. Et au juge et à la justice. Je vous informe que Ousmane Sonko sera entendu lundi par le doyen des juges d'instruction qui nous recevra le lundi matin que l'enquête se poursuit sur la question de la flagrance. Je vous informe que M. Ousmane Sonko fait l'objet d'une 3e procédure de levée d'immunité parlementaire. Et l'Assemblée nationale a été saisie le 2 mars par le procureur général qui a transmis le courrier au garde des sceaux, ministre de la justice.
La situation est plus que chaotique à Dakar et dans beaucoup de localités du pays. Des séries de manifestations et des décès sont constatés. Des multinationales françaises sont aussi la cible des manifestants. À ces faits qui durent depuis l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, s'ajoutent de graves atteintes à la liberté de la presse. L'autorité de régulation a coupé le signal de deux groupes de presse et plusieurs autres médias ont subi des attaques au cocktail Molotov, leurs sièges caillassés et des véhicules incendiés. Des faits jugés graves par Ibrahima Baldé, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal.
Le travail de journaliste n'est pas facile dans les situations de manifestations. Nous continuons de faire notre travail, de donner des informations justes et vraies. Mais ce qui s'est passé hier, notamment les saccages de quelques rédactions, que nous condamnons cette violence dans toutes ses formes. Nous demandons à l'État de garantir la sécurité des journalistes et des rédactions pour que nous puissions exercer notre droit de l'accès à l'information.
Inquiet de la situation inédite que vit la presse, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal demande l'ouverture d'une enquête.
Que des enquêtes soient ouvertes pour poursuivre ces actes, pour poursuivre les auteurs de ces actes de vandalisme. La presse joue le rôle de régulation en garantissant l'accès à l'information. Donc nous ne tolérerons aucune stratégie de musellement, même avec l'usage de la violence. Nous continuerons de faire notre travail.
Considéré comme le principal opposant du régime en place, Ousmane Sonko est toujours en garde à vue. Il fera face aux doyens et des juges pour l'affaire de viol. Il est aussi accusé pour trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection. Des accusations qui nécessitent une nouvelle procédure de levée de l'immunité parlementaire du député. À Dakar et dans plusieurs localités du Sénégal, la stabilité demeure précaire. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, démarrées le 26 février, les campagnes pour les législatives de demain samedi ont pris fin hier à minuit. Ce scrutin intervient juste 4 mois après une élection présidentielle boycottée par l'opposition et marquée par des violences. Aïcha Diarra, notre correspondante à Boaké, nous parle des enjeux.
Pour ces élections, l'opposition ivoirienne est bel et bien présente. Elle avait annoncé boycott puis désobéissance civile recommandée à ses partisans lors de l'élection présidentielle. Mais elle est désormais investie et très active pour ses législatives. À Boaké, le PDCI et EDS ont opté pour une campagne de porte en porte. Mangwa Jacques, membre influent du PDCI dans la région du Bekin, est aussi le président du conseil régional.
Non, alors, le message que je vais dire aux militants, c'est simple, c'est deux messages. Vous savez, un pays parlé, on parle avec beaucoup d'images. Je le dis que tout ce qui existe, c'est des peuples par le PDCI. Je fais l'image suivante. Quand quelqu'un va faire sa cuisine, vous êtes venu, il désigne quelqu'un, il dit bon, ok, il faut que tu serves les gens. Celui qui va servir là, celui qui vous a donné à manger, ou bien celui qui a préparé. Il dit c'est celui qui a préparé. Il dit bon, si c'est celui qui a préparé, donc c'est le PDCI. Qui a tout préparé, ça veut dire au feu. Donc vous ne votez personne que le candidat du PDCI.
Absent de la scène politique depuis 10 ans, EDS qui part en coalition avec le PDCI a en espoir de se recycler politiquement. Berthe Drissa est le candidat qui représente EDS dans cette coalition.
Et cette année, je crois que même si on allait aux élections seul, ce serait difficile de s'organiser. Le PDCI qui a guéri, nous tend la main. Nous allons partir avec le PDCI. Ça va nous permettre d'apprendre encore les nouvelles technologies de l'élection, comme le disait Fologo en son temps. Ça va nous permettre de nous recycler.
De son côté, le RHDP au pouvoir doit absolument remporter la majorité lors de ces élections pour consolider son assise. Durant les campagnes de ces élections, nous avons observé un RHDP bouillant à travers la ville du Boaké, dont les affiches aussi dominaient le paysage boakois. L'essentiel du message d'Amadou Koné, tête de liste à Boaké, était l'union des enfants de Boaké autour de leur ville.
La politique doit pas diviser les enfants de Boaké, même si la police. Donc moi je suis RDR, d'autres sont RDR, je pense que c'est seulement les enfants de Boaké et qui aiment Boaké qui peuvent sortir Boaké des difficultés, mais pas quelqu'un d'autre. C'est les enfants de Boaké, c'est ceux qui aiment Boaké, qui vivent à Boaké, qui peuvent faire cela.
Le grand absent de cette élection législative ivoirienne est le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui se trouve présentement en France pour raisons médicales alors qu'il est candidat à Séguéla dans son fief au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les violences des élections présidentielles dernières ont fait 87 morts et près de 500 blessés. Ces violences hantent encore les esprits des populations ivoiriennes. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Pour la première fois de l'histoire, un pape est en Irak à partir de ce vendredi pour une visite de 3 jours. La communauté chrétienne d'Irak est l'une des plus anciennes et l'une des plus diverses, avec notamment des Chaldéens catholiques, des Arméniens orthodoxes et des protestants. L'Irak est aussi le berceau de l'islam chiite. Pour une analyse, Eric Manirekiza a joint à Columbia University, ici aux États-Unis, le professeur d'histoire Suleyman Béchirgagne.
Les chrétiens d'Orient, les chrétiens irakiens minoritaires ont particulièrement souffert, ainsi que d'autres minorités. C'est la raison pour laquelle il y avait un sentiment d'urgence, une demande très forte d'abord de la part de ces communautés qui souhaitaient voir le chef de l'Église catholique venir les soutenir. Et il y avait de la part du pape un sentiment d'urgence également à les rendre visite à ces communautés.
Le pape François va rencontrer la plus haute autorité religieuse d'une partie du monde chiite, le grand ayatollah Ali Sistani à Najaf, au sud de Bagdad. La venue du pape à Najaf est donc une main tendue vers notre grand courant de l'islam, n'est-ce pas?
Oui, et c'est important. C'est important pour lui de considérer qu'il y a un pluralisme au sein de l'islam lui-même, des lectures, des interprétations différentes, que l'islam ce n'est pas simplement l'islam sunnite, mais également l'islam chiite. D'abord, c'est cet islam-là qui aujourd'hui est majoritaire sur cette terre. Et donc, le geste de rendre visite à l'ayatollah Sistani est une manière, en quelque sorte, de reconnaître à la fois la prééminence chiite sur cette terre irakienne et également effectivement de signaler l'attachement à un pluralisme et donc l'attachement à une autre branche également de l'islam qui n'est pas simplement l'islam sunnite majoritaire mais l'islam chiite qui est minoritaire dans l'ensemble du monde musulman et qui est majoritaire dans la région que le pape va visiter.
Le pape est en Irak, un pays dans les stigmates de la guerre. C'est un pape quand même courageux.
C'est un pape courageux, c'est un pape courageux parce que le danger de cette visite n'est pas nul. On le sait, c'est une terre qui a été ravagée par la violence et la violence est toujours là parce que des attentats se produisent, évidemment. On a eu récemment des bombardements sur cette terre. Il y a également, et peut-être surtout d'ailleurs, que nous vivons dans une époque de pandémie. Le pape lui-même, évidemment, est vacciné, mais les inévitables rassemblements que sa visite va provoquer ne sont pas du genre de ceux que demande la situation sanitaire aujourd'hui. Mais il a effectivement manifesté beaucoup de courage et manifesté beaucoup de ténacité parce que cette visite s'effectue sur fond d'urgence pour lui. Il a un sentiment d'urgence qui fait qu'il a été très opiniâtre. Une certaine sagesse aurait peut-être commandé de remettre ce voyage, mais il a dû se rappeler que déjà le pape Jean-Paul II devait y aller, il n'a pas pu. Le pape Benoît devait y aller, il n'a pas pu. Il a dû se dire, cette fois-ci, j'y vais contre vents et marées, guidé par les principes qui sont à l'origine de sa visite. Et c'est donc là, effectivement, à la fois le courage physique du pape et le courage moral que donne la conviction d'être en mission.
C'était le professeur Souleymane Bachirigagne à New York. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. La présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Il y a 60 ans aujourd'hui, le président John Fitzgerald Kennedy signait le décret créant le corps de la paix. J'espère que ce sera une source de satisfaction pour les Américains et une contribution à la paix mondiale, avait-il déclaré lors de la cérémonie de signature du décret. Le corps de la paix est un petit organisme indépendant administré par le gouvernement des États-Unis. Ses travailleurs sur le terrain sont des bénévoles, en grande partie des éducateurs et des spécialistes de l'agriculture, de la santé, de l'économie communautaire et du développement des jeunes. Ils s'emploient à améliorer la vie des personnes dans les zones sous-développées ou mal desservies, en augmentant la productivité et en encourageant l'autonomie. Selon ses propres termes, la mission de l'agence est d'aider les gens des pays intéressés à répondre à leurs besoins en hommes et femmes formés, d'aider à promouvoir une meilleure compréhension des Américains de la part de peuples servis et d'aider à promouvoir une meilleure compréhension des autres de la part des Américains. En effet, plus que toute autre chose, le corps de la paix a été conçu pour favoriser la compréhension mutuelle entre les Américains et d'autres cultures du monde. Des volontaires formés et continuent d'être envoyés vivre et travailler dans les pays en développement du monde entier, aidant le pays d'accueil à répondre à ses besoins en travailleurs qualifiés. Et parce qu'ils vivent au sein de la population locale, apprennent à connaître les gens et leur culture. Dans le même temps, les populations locales qui travaillent et vivent à leur côté se rendent compte que les Américains ne sont pas très différents d'eux-mêmes. En juin 2019, quelques 235 000 bénévoles ont servi dans 141 pays. Chaque bénévole sert une période de 2 ans sans salaire, mis à part une allocation pour couvrir le paiement de sa chambre et quelques dépenses essentielles. Leur mission s'est adaptée à l'époque et aux besoins des personnes qu'ils servent. Aujourd'hui, en raison des restrictions du COVID-19, aucun volontaire du corps de la paix n'est en poste à l'étranger. Leur travail sur le terrain reprendra une fois la pandémie maîtrisée. Pour moi, c'est de cela qu'il s'agit. L'impact que des simples actes de service peuvent avoir au-delà de frontières, des générations et du temps, a déclaré le petit-neveu du président John Kennedy, Joseph Patrick Kennedy III. C'est une leçon que je porte en moi tous les jours.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la